Dimanche dernier, frères et sœurs, Jésus se présentait sous l'image du berger, sur l'image du bon pasteur. Et aujourd'hui, il se décrit comme la vigne dont nous sommes les sarments. Pour nous qui n'habitons pas forcément une région très viticole, évidemment, cette comparaison peut parler beaucoup moins qu'à un Valaisan qui, dès sa naissance, sait combien la culture de la vigne demande de soins, de minutie, d'efforts pour que la récolte puisse porter un fruit abondant et un fruit de qualité. « Je suis la vigne, dit le Seigneur. » Les disciples, eux, ont très bien pu saisir le sens de cette comparaison parce que la vigne est très souvent citée dans la Bible et constitue des symboles de multiples réalités. Rappelez-vous dans la Genèse où la vigne apparaît comme un signe de bénédiction de la part de Dieu. Noé, qui l'a pris un peu à ses dépens parce qu'il en a abusé un peu de la boisson, c'est lui qui a planté la vigne. Cette vigne, après le déluge et surtout après que Dieu lui ait fait la promesse qu'il ne maudirait plus la terre et ses habitants. La vigne, donc, comme l'olivier, comme le figuier, sont des signes de cette paix que Dieu veut avec l'homme, des signes de cette paix que Dieu établit entre lui et nous. En Deutéronome, Dieu promet à son peuple une terre riche en vignes, et il menace les infidèles et ceux qui oppriment les pauvres de les priver du vin de leurs vignes, de les priver de cette joie que la vigne peut procurer. Plus tard, dans la Bible encore, la vigne devient une figure des temps messianiques, comme aussi un symbole de sagesse, ou comme le symbole d'une épouse agréable et féconde, comme on peut le constater dans le Cantique des Cantiques. Mais surtout, chez les prophètes, la vigne représente le peuple élu, le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple d'Israël. Cette vigne qui, selon le psaume 80, cette vigne que Dieu a arrachée à l'Égypte pour la transplanter en terre promise, cette vigne, évidemment, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple des Hébreux, mais c'est une vigne tantôt dévastée, tantôt piétinée, tantôt ravagée aussi par ses ennemis, quand Israël se montre infidèle au Seigneur son Dieu. Dieu n'a cessé d'attendre des fruits de sa vigne, d'attendre des fruits de ce peuple élu, c'est-à-dire de pouvoir compter sur la fidélité d'Israël. Mais les prophètes envoyés à ce peuple ont été souvent insultés, maltraités par les vignerons chargés de cultiver cette vigne du Seigneur, par ces responsables de la communauté. Et ils sont même allés jusqu'à tuer le fils que Dieu a envoyé à cette vigne. Si pour la Bible, donc, la vigne est le symbole du peuple élu, elle est aussi par extension le symbole de cette alliance voulue par Dieu avec l'homme. En versant son sang, manifesté dans le vin eucharistié, manifesté dans le mystère eucharistique, Jésus scelle une alliance nouvelle entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'humanité. Mais pour entrer dans cette alliance, comme le rappelle l'Évangile, et pour recevoir tous les fruits que Dieu peut nous accorder, Jésus nous demande de demeurer en lui, comme les sarments sont unis à la vigne qui les nourrit. La vigne, donc, est le symbole de cette nouvelle alliance que le Christ a conclue par son sang, par le sang versé, et qui est continuée et perpétuée dans l'histoire par l'Église elle-même qui devient la nouvelle vigne du Seigneur. Demeurez en moi. Le disciple est donc invité à entrer dans une communion très intense avec le Christ ressuscité. Car il y a cette menace, de même que les sarments qui sont privés de la sève, privés de leur union au cep ou à la vigne, ainsi donc nous sommes condamnés à devenir que du bois sans valeur, du bois sec, parce que le sarment qui a séché, qui est coupé de son cep, n'a aucune valeur, même pas au niveau de la chaleur. Il n'est bon qu'à être brûlé comme de la paille et à être gelé. C'est un peu cette menace que nous laisse l'Évangile d'aujourd'hui en montrant ce qu'il peut advenir si nous ne gardons pas cette communion intense avec le Christ, si nous ne demeurons pas en lui. Mais il y a plus. Si nous demeurons dans le Christ, c'est-à-dire si nous entretenons avec lui une relation intense par la prière, par nos œuvres, il nous promet, lui, de demeurer en nous, de faire en nous sa demeure. Souvenez-vous de cette première rencontre entre les disciples, André et Jean, si je ne fais pas d'erreur, avec le Christ, qui lui demande, Seigneur, où demeures-tu ? Qui veulent et qui cherchent à habiter avec Jésus pour être dans une communion plus grande avec lui. Eh bien, cette demeure, aujourd'hui, le Christ nous en donne la réponse. Cette demeure est en nous, cette demeure est dans l'Église. Cette demeure, c'est chacun d'entre nous, c'est chaque être humain qui écoute son message, qui en vit, qui le transmet aussi autour de lui. Cette demeure du Christ en nous, cette présence du Christ au cœur de nos personnes, du disciple, du croyant, donne donc à nos êtres une dimension nouvelle. Nous sommes appelés à devenir des êtres spirituels. Cette communion au Christ nous arrache à une vie purement biologique qui risque évidemment de se limiter à ce qui est matérialiste, sans envergure, sans espérance. En demeurant en nous, le Christ devient pour chacun de nous source de vie, de lumière, de sagesse, parce qu'il nous vivifie comme le sarment qui est attaché à la vigne, qui est attaché au cep de vigne. C'est cette communion qui nous permet de porter du fruit, comme vous l'avez entendu dans l'Évangile. Mais l'Évangile ne dit pas quels sont ces fruits. L'histoire de cette comparaison entre Jésus et la vigne en reste là. Ce que nous pouvons supposer de ces fruits, c'est qu'ils sont, par cette communion avec le Christ, c'est qu'ils sont tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous fait aimer l'autre. Ces fruits sont ceux que produit la foi au Christ, ce sont ceux que produit le cœur humain et son intelligence, et qui s'exprime par ses sentiments et tous ses gestes de pardon, de miséricorde, de partage que nous pouvons accomplir tout au long de notre vie.